Bonsoir et paix à tous. Spécial dialogue entre Congolais sur la journée internationale de la paix, ce 21 septembre 2008. Une journée célébrée en RDC sur fond de poursuite des combats dans le Nord Kivu entre les éléments du CNDP de Laurent Nkunda et les FARDC. Quel est le sens de cette journée et quel défi pour la paix en RDC? C'est le thème de cette émission Dialogue entre Congolais, je vous l'ai dit, une émission spéciale. Comme invité, nous recevons deux dames parlementaires, Eva Zaïba, elle est sénatrice MLC, internationale chargée de la sensibilisation des cadres et formation de la jeunesse, Vicky Katoumoa, députée nationale de l'ANP, élue de Kalemie. Nous recevons aussi Upio Kakurawapol, député national PPRD, élu de l'Ituri, et Clément Kankubukasa, député national élu de Dibaya au Kasa Occidental. Il est député indépendant, membre de l'Union pour la Nation et deuxième vice-président du groupe parlementaire des chrétiens démocrates. Nous devrions recevoir le numéro 1 de la MONUC, Alain Dorf est empêché suite au combat en cours au Nord Kivu. A tous, bienvenue dans cette émission. Spécial dialogue entre Congolais sur la journée internationale de la paix, ce 21 septembre 2008. Quel est le sens de cette journée? Sachez que la journée internationale de la paix a été instaurée en 1981 par les Nations Unies pour faire observer tous les ans une journée de cessez-le-feu et de non-violence dans le monde. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté des résolutions établissant la journée internationale de la paix, demandant instamment à toutes les nations et à tous les peuples de favoriser la résolution pacifique des conflits et d'honorer la cessation des hostilités pendant cette journée. Notre consoeur Kelly nous donne plus de détails sur l'objet de cette journée.
Chaque 21 septembre est une journée consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des nations et des peuples ainsi que dans leurs relations. Pour les Nations Unies, le 21 septembre est un moment qui permet à l'ensemble du mouvement pacifiste, mais aussi à tout citoyen de se réunir autour d'une table pour mieux agir encore vers un monde exempt de guerre, d'une inégalité et d'injustice. À l'occasion de cette journée internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a lancé un message de paix portant un accent particulier sur le développement des pays, car dit-on, pas de développement sans paix. Il en outre ajouté, je cite, les enjeux qui nous rassemblent autour de cette journée internationale de la paix sont considérables. Pour mobiliser les hommes et les femmes du monde entier, l'ONU a décidé de lancer une campagne de textos. Mon texto à moi, poursuit Ban Ki-moon, dit ceci. En ce 21 septembre, journée internationale de la paix, j'exhorte les dirigeants et les peuples du monde entier à joindre leurs forces contre la guerre, la pauvreté, la faim et pour les droits de l'homme pour tous. Fin de citation. Le secrétaire général des Nations Unies souhaite enfin que chacun envoie un vibrant appel à la paix qui sera lu, entendu et partagé tout autour du monde.
Et pour savoir, Alain Dos, numéro 1 de la MONUC, pense que cette journée est un moment de réflexion, on l'écoute. Il était tout à l'heure au micro de Ben Kabamba, il répondait aux questions des auditeurs et internautes d'Okapi.
C'est un moment pour nous de réitérer nos préoccupations, nos ambitions, mais aussi de rappeler tout ce qu'ils ont dû sacrifier leur vie au service de la paix, aux Nations Unies, ici dans ce pays, mais partout dans le monde. Donc, c'est une journée de réflexion, et je pense que c'est une journée de réengagement dans le processus de paix, difficile que ce soit. Je pense que c'est important de rappeler d'où ce pays vient, parce que j'étais pas là, mais il y a 5, 6, 7 ans, il y avait des conflits un peu partout. Aujourd'hui, c'est ça. On a encore des conflits, notamment au Nord Kivu, mais la grande partie du pays est en paix. Mais le pays, avec le pays vient la sécurité, avec la sécurité vient le développement. On ne peut pas faire le développement sans la sécurité et le pays. Mais en général, je dirais que le pays a fait beaucoup de progrès.
Voilà, nous commençons tout de suite avec notre seul invité au téléphone. Il s'agit de Vicky Katoumoa parce que tous les autres sont au studio. Madame Vicky Katoumoa, vous avez suivi là notre condensé sur cette journée sur la paix et puis le sens que donne Alain Dos à cette journée. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous en pensez?
Oui, bon, je suis d'avis avec M. Alain Dos. Le pays, la République démocratique du Congo vient de loin. Il y a 5 ans, on ne vivait pas dans un espace aussi paisible qu'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a encore des postes de tension dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, Nous devons croire que notre gouvernement est en train de fournir les efforts ainsi que les Nations Unies pour qu'il y ait la paix dans ces deux, dans les deux provinces. Et nous devons aussi croire que hier à Ituri, il y avait aussi des postes de tension. Aujourd'hui, l'Ituri est pacifié. Bon, il faut laisser le temps au temps. Le pays traverse beaucoup de difficultés et nous osons croire que dans les jours à venir, nos populations du Nord et du Sud-Kivu vivront aussi dans un espace pacifié.
Madame Bazaïba, vous pensez à votre niveau que la RDC a fait un grand pas sur la marche de la paix?
Ça dépend de la façon dont on veut voir cette paix-là. Aujourd'hui, si la même question a été posée à une femme qui est dans la rue, qui est en train d'errer dans les forêts à cause des crépitements des armes aujourd'hui dans le Nord Kivu, je pense que à la place de répondre, elle va tout simplement pleurer et dire qu'elle ne sait pas à quel point se vouer. Parce que je dis que, vous savez, monsieur le journaliste, le peuple congolais, c'est un peuple épris de paix. Et pour preuve, tout l'Est du pays a mordu à la maison pendant la campagne électorale. Et la paix, c'était la campagne votée pour la paix. Tout le monde a voté pour la paix parce qu'on dit la paix, c'est l'élément primordial pour le développement. Mmh. Et aujourd'hui, désillusion totale. Donc, je suis ému, je suis émotionné, je ne saurais pas répondre aujourd'hui, à date du 21 septembre 2008, à cette question-là, parce que je me trouve à Kinshasa, parler de la paix, alors qu'il y a des sangs qui coulent au nord du pays. Sachez que, à l'est plutôt du pays, au nord du Kivu, sachez que quand il y a des postes de tension, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, des postes de tension, c'est tout le pays qui en souffre. Comme qui dirait, on peut être blessé dans un doigt, on aura mal dans son cœur, et c'est le corps entier qui en souffre. Aujourd'hui, j'ai dit, il n'y a pas de paix en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui se passe ici, plus ou moins tranquillité, mais nous devons aller là où les choses ont toujours commencé. Toutes les guerres commencent à l'est du pays, et ces guerres-là doivent finir. Quand ça se passe à l'est du pays, on ne peut pas dire que le Congo est en paix. Parce que si au moins aujourd'hui, après autant d'années des efforts pour la paix, à l'est du pays, il n'y avait plus rien, nous pouvions dire autre chose. Comme ça y est là-bas, nous ne connaissons pas les ampleurs jusqu'à Kinshasa.
Merci beaucoup, Bazaïba. Okio Kakura, vous êtes député national PPRD, vous avez suivi déjà, les avis sont quelque peu partagés hein, pour Vicky Katouma, elle s'est ralliée à Landos pour dire qu'il y a eu un grand pas qui a été fait dans la marche de la paix. Par contre, pour F. Bazaïba, il n'y a pas de paix en RDC, elle s'appuie sur ce qui se passe à l'est, votre avis.
Oui, je crois qu'il y a effectivement une évolution qu'il faut reconnaître. Nous avons été ensemble ici à San City pour négocier la paix. J'ai eu le privilège de participer activement à la pacification de l'Ituri. Et donc, la paix étant un processus, il est évident, n'est-ce pas, que le chemin qui a été parcouru, il est remarquable. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Kivu, il est non seulement regrettable, mais il nous invite aujourd'hui à renouveler l'engagement pour la paix, à en appeler aux décideurs politiques, civils et à tous les niveaux, n'est-ce pas, de renouveler la volonté pour aller de l'avant et de reconnaître qu'il y a quand même d'un côté des mauvais citoyens qui sont restés depuis le début en marge du processus et que c'est le moment, aujourd'hui et jamais, d'en appeler, n'est-ce pas, à non seulement cesser le feu, parce que le 21
là, vous pensez aux événements du Nord qui vous, c'est ça?
Il est évident qu'effectivement, depuis le processus de San City, depuis l'avènement de la transition, il y a eu déjà des citoyens qui ont délibérément choisi de rester en dehors du processus, et que donc c'est de ce côté-là qu'il y a aujourd'hui un problème. Et que donc, à partir du moment où, non seulement le gouvernement de la République, a commencé par le chef de l'État, qui s'est déplacé lui-même à Bukavu, et que les Nations Unies, à Landos, oui, à Goma, et qu'aujourd'hui, lorsque Landos s'engage les Nations Unies, et comme on l'a vu il y a quelques jours, les opérations de maintien de la paix qui ont amené, n'est-ce pas, la MONUC à intervenir, il faut appuyer ces actions-là, parce qu'effectivement, les Congolais ont voté pour la paix, les Congolais veulent la paix, il n'y a pas de développement sans paix. Notre devise dans notre monde de paix, justice, paix et travail. Donc, nous voulons la paix, et il faut donc, aujourd'hui, le 21 septembre, nous tous nous engager pour la paix.
Même si, pour Bazaïba, il n'y a pas encore de paix. Je ne sais pas si c'est votre avis, Clément Kankou.
Naturellement, ne serait-ce que par pudeur, je n'irai pas dire qu'il y a la paix en République démocratique du Congo. Et par solidarité avec nos frères et sœurs qui souffrent de cette insécurité.
Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un pas qui a été franchi, un grand pas quand même?
Certainement qu'il y a eu, on a balisé le chemin pour arriver à un état de droit. Mais j'aurais du mal, moi, député national, représentant de ces citoyens qui pleurent tous les jours parce qu'on tue à la cité, parce qu'on pille, parce qu'on viole. Moi, j'aurais du mal à dire qu'il y a la paix. Et c'est vrai qu'on peut, se contenter de dire que bon, on est plus ou moins en sécurité. Mais qui est en sécurité en République démocratique du Congo quand nous savons que dès que nous atteignons une certaine heure de la nuit, tout le monde se sent en insécurité. Je crois qu'il faut quand même qu'on relativise ce qu'on dit. Nous avons un problème sérieux et nous devons nous regarder en face, nous Congolais, pour dire que c'est vrai que nous avons un petit peu bougé, mais nous sommes en train de faire encore plus de pas en arrière que ce qu'on a pensé. Et je pourrais conclure en disant que avant les élections, c'est après les élections pour l'Est.
Parce qu'il n'y a pas encore de paix, ça c'est Clément Kankou qui le dit. Que peut amener la cessation des hostilités pendant une journée comme celle-ci? Parce que c'est ce que vise en fait cette journée internationale. L'objet de cette journée instaurée il y a 27 ans par les Nations Unies, comme je le dis, c'est que toutes les nations et tous les peuples favorisent la résolution des conflits, la cessation des hostilités pendant cette journée du 21 septembre. Pourtant, sur le terrain, au Nord-Kivu, particulièrement, les combats se poursuivent. Reportage expédié Mbamoubi depuis Goma.
Selon la MONUC, les troupes NDP ont été repoussées hier samedi après avoir brièvement occupé plusieurs positions dans la localité de Sake, située à 27 km de Goma. Toutefois, les combats qui se sont arrêtés hier soir viennent de reprendre ce dimanche matin du côté de Mushaki, affirme la même source. Le gouverneur du Nord Kivu confirme la reprise des hostilités. Julien Paluku indique en même temps qu'un nouveau front vient de s'ouvrir ce dimanche, cette fois dans le territoire de Rutshuru. Des combats se déroulent d'après lui du côté de Rugarama vers Mugogo, 70 km au nord-est de Goma. Il accuse le CNDP d'avoir ouvert les hostilités. Ces accusations sont catégoriquement démenties par le CNDP. Son porte-parole, Bertrand Bissimois, souligne que plusieurs positions qu'ils occupent sont attaquées par les FRDC ce dimanche depuis 5 heures du matin. Il s'agit des localités Rugarama, Kitagoma et Nyarukwangara en territoire de Rutshuru. De Goma, Exeli Mbamoubi, Radio Okapi.
À ce propos, Vital Kamerhe a lancé un appel au cessez-le-feu. C'était lors de la cérémonie de la Journée internationale sur la paix, célébrée ce même dimanche, 21 septembre à Kinshasa, à la paroisse Sainte-Anne. Le numéro 1 de la MONUC, Alain Dos, et le président de l'Assemblée nationale, ainsi que quelques députés nationaux, étaient face à quelques élèves de la capitale. Vital Kamerhe.
Au moment où nous célébrons cette journée mondiale de la paix, nous ne pouvons pas oublier de tourner nos pensées vers l'est du pays. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et dans une certaine mesure la province orientale, nous avons nos compatriotes et ceux qui ont choisi de vivre dans notre pays qui continuent à faire le prix des affres de la guerre. La barbarie humaine continue à faire des ravages dans cette partie de notre pays. Nous voulons lancer, du haut de cette tribune, un appel à toutes les parties engagées dans le processus que nous avons appelé programme Amani, de saisir cette chance de plus pour ceux qui hésitaient encore de proclamer à partir d'aujourd'hui le cessez-le-feu, pour donner la chance à la paix.
Voilà, cet appel au cessez-le-feu, au plus haut, je commence encore cette fois-ci par vous. Est-ce que vous pensez que cet appel de Vital Kamerhe sera entendu?
Je souhaite non seulement qu'il soit attendu, mais que cet appel soit relayé par tous les Congolais et à l'attention de toutes les parties prenantes. J'ai suivi le reportage de votre confrère de Goma, qui cite une des parties à l'acte d'engagement de Goma. Je voudrais m'adresser à cette partie concernée, le CNDP, de déposer les armes aujourd'hui, au moins aujourd'hui le 21 septembre, pour que les femmes, les enfants, les vieillards, toutes les victimes innocentes aujourd'hui sentent que la paix est possible dans ce pays. Je crois, moi, à la paix. Je crois que la paix peut être restaurée dans ce pays. Et donc, je voudrais vraiment que toutes les parties engagées au programme Amani...
Est-ce que vous lancez le même appel aussi au FARDC?
Bien entendu, toutes les parties qui sont concernées à l'acte, aux actes d'engagement de Goma devraient, n'est-ce pas, veiller à ce que les clauses de cet acte, de ces actes soient respectées. Et donc, il est tout à fait normal, sauf cas évidemment de légitimes défenses, et lorsque les forces régulières sont attaquées. Il me semble que les choses devraient être différentes par rapport aux forces régulières qui, elles, ont le mandat, n'est-ce pas, de maintenir la paix, la défense du territoire. Mais j'ai confiance à ce que, n'est-ce pas, les forces régulières ne puissent pas déborder. Et parce que les éléments que nous avons à notre possession, c'est justement ce que l'on appellerait, je ne l'appelle pas pour négatif, parce qu'elles sont parties prenantes à l'acte d'engagement de Goma et que pour le besoin de la paix, j'ai pleinement confiance que chacune des parties attendra la voix de la raison, parce que la porte est ouverte, les conditions sont réunies, et que s'il y a, n'est-ce pas, de reproches à faire, il faut pouvoir les régler dans le cadre, n'est-ce pas, du programme Amani, qui est l'occasion idéale aujourd'hui pour régler les problèmes du Nord Kivu, et évidemment du Sud Kivu.
Et là, évidemment, c'est un souhait que vous émettez. Mais je vous repose la question, Clément Kankou-Boukassa, est-ce que vous pensez que l'appel au cessez-le-feu va être observé, parce que là, les hostilités, même aujourd'hui, journée internationale de la paix, censée observer, en fait, ce cessez-le-feu, il n'y en a pas, etc.
Je ne peux qu'appuyer l'appel de Vital Kamerhe. D'ailleurs, nous souhaitons que tout le monde fasse la même chose. Mais ce qui me dérange un peu, c'est de voir que cet appel se fait aujourd'hui. Je suppose que le président Kamerhe vient quand même de Goma. S'il le fait d'ici, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de le faire sur place, lui qui est très engagé dans le programme Amani?
On l'a couvert, je crois qu'il...
Mais je crains, moi, que cet appel ne soit pas suivi.
Pourquoi?
Je crains qu'il ne soit pas suivi parce que cet appel n'a pas été suivi pendant les 12 mois ou 9 mois du programme Amani. Oui. Je ne sais pas par quel miracle, aujourd'hui, si on n'a pas réglé le problème de fond.
C'est quoi le problème de fond, alors?
Mais si vous voulez qu'on aille dans le détail, la crise à l'Est, c'est une crise complexe qui trouve ses origines, ses causes aussi bien au Congo qu'à l'étranger. Nous ne pouvons pas réduire la crise de l'Est au seul individu Kunda. Vous savez, de part et d'autre, les gens disent des choses. Mais finalement, nous pensons qu'il y a un problème au niveau du gouvernement congolais. Qui ne sait pas jusque-là trouver la méthode qu'il faut pour bien gérer cette crise. Nous allons de conférence en conférence. Au bout de 12 mois, on nous a inventé le mixage à Amani. Maintenant, nous entendons parler de dialogue direct. Tantôt, c'est le président Kagame qui dit qu'après Kunda, il y aura encore un autre Kunda. Je crois que nous ne devons pas nous voiler la face et dire que nous avons un problème important qui est complexe, c'est d'aller chercher la cause de cette guerre. Dire aujourd'hui, lancer des appels, tout le monde peut le faire, mais est-ce que nous avons réglé le problème de fond? Je ne pense pas.
Voilà. Alors, Vicky Katoumoua, on revient vers vous qui intervenez au téléphone. D'abord, si vous pouvez un peu vous éloigner parce qu'il y a du bruit autour de vous et nous le sentons ici. Vous avez peut-être suivi la question qu'on a posée à Clément Kankou-Boukassa et sa réponse. Pour lui, l'appel de Vital Kamerhe pour un cessez-le-feu à destination de toutes les parties risque de ne pas être suivi parce qu'il pense que le problème de fond n'est pas réglé.
Oui, bon, moi je ne sais pas ce que lui entend par problème de fond. Tous les problèmes de fond étaient résolus à Sam City lorsqu'il y avait plusieurs factions rebelles dans le pays. Et après Sam City, tous les protagonistes congolais se sont réunis autour d'une table pour se retrouver tous dans un gouvernement d'union nationale. Et donc, je ne sais pas quel est le problème de fond que la République démocratique du Congo a aujourd'hui avec les fils congolais ou avec l'extérieur, comme il prétend le dire. Ça, c'est un problème. En ce qui concerne le problème de fond qu'il pose, je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit redevable aux pays voisins ou à un Congolais. quel qu'il soit. Mmh. Ça, c'est un fait.
Ouais.
Bon, concernant l'appel de l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale,
oui.
Il y a que les personnes animées de mauvaise foi qui ne puissent pas accepter qu'il y ait la paix. Parce que d'abord, la paix, c'est une qualité interne de l'individu. Lorsque un individu manifeste cette qualité interne, chercher la paix pour soi-même et pour le voisin, pour autrui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, plus universel. Et donc, s'il y a des Congolais aujourd'hui qui cherchent, qui sont en train de tirer le ficelle pour leur propre compte, alors qu'ils sachent que tôt ou tard, le peuple congolais les jugera. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de la paix.
C'est un peu l'avis
que je peux mettre là-dessus.
On vous a suivi, Madame Vicky Katumwa. Nous vous gardons parce que vous êtes encore dans ce débat jusqu'à la fin. Je reviens vers vous, Madame Eve Bazaïba, sénatrice MLC. La même question. Est-ce que l'appel de Vital Kamerhe va être suivi? Vous avez suivi. Clément Kanko a dit que on n'a pas encore réglé les problèmes de fond, mais pour Vicky Katumwa, tous les problèmes de fond ont été réglés depuis Saint-Sidi.
Ici, je voudrais d'abord épingler le fait que cet appel soit dit devant les élèves. C'est une bonne chose. D'ailleurs, dans le cadre de l'éducation pour la paix, nous aurons bien voulu que ce soit un programme qui soit bien intégré dans le programme de l'éducation nationale. Ce n'est pas de cette façon qu'on viendra dire aux élèves, est-ce que ces élèves ont capté le message? C'est vrai que la destination de ces messages, c'est en dehors...
Ils peuvent être messagers.
Exactement, en dehors de cela. Mais le fait d'attirer l'attention aux enfants en cette journée du 21 septembre 2008, c'est très important pour que les enfants congolais puissent en intégrer parce que l'éducation commence à la base. Mais par rapport à cet appel, sera suivi, ça ne sera pas suivi, et c'est très complexe. Vous savez, il y a beaucoup d'adhérence dans ces conflits-là, et quand on dit qu'aujourd'hui la situation à l'est de notre pays est complexe, la complexité, moi, je la trouve par le fait de l'implication de ceux-là même qui sont appelés à résoudre la question.
Qu'est-ce qui rend complexe? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je voudrais dire par là, c'est-à-dire quoi? Ça remonte de plusieurs années. Aujourd'hui, on parle de Kundalatoire et de Saint-PD. Hier, il n'y avait pas Kundalatoire, il n'y avait pas Saint-PD.
Kundamihigo, il semble.
Kundamihigo, je ne sais pas, je ne le connais pas.
Je ne le connais pas.
Voilà, comme vous l'avez dit. Alors, Kunda Migo, comme vous le dites, c'est la conséquence, c'est la suite de ce qui a commencé avant. On peut remonter jusqu'à la Turquoise, la mission de la Turquoise en 94. On a connu des intérêts hamouins qui sont venus ici, je ne vais pas y revenir, hommes, femmes et enfants, en armes et munitions. On n'a pas su procéder au triage pour qu'on sache qui est qui doit rentrer ici en qualité de réfugié, parce que au nom de la paix internationale, nous avons aussi le devoir de recevoir les réfugiés dans notre pays, autant que les Congolais sont reçus comme réfugiés ailleurs. Mais on ne reçoit pas tout le monde, il faut qu'il y ait le triage dont j'ai parlé. Mais des intérêts à devenir FDRL, c'est à quel moment? Ça fait combien d'années? Ils sont bien encadrés. Ils ont des forces militaires. Ils ont la possibilité du combat plus que nos militaires, l'armée régulière de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait que nous soyons dans l'incapacité de pouvoir les déloger. Dernièrement, j'ai suivi le porte-parole de FDR qui dit qu'ils ne sont pas encore prêts à rentrer chez eux au Rwanda. Eux, au moins, sont clairement identifiés comme étant des rebelles rwandais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remettre là-bas? Quand j'ai parlé de la complexité de la question, parce que autant la communauté internationale est impliquée dans cette question-là, j'ai parlé de la mission de la Turquoise, l'opération Turquoise, autant les Congolais sont impliqués par l'utilisation des FDRL pour de tel ou tel besoin, ça dépend des contextes.
Mais madame, vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution?
Oui, mais avant d'arriver aux solutions, il faut d'abord décortiquer, comprendre les choses. Ce que je propose comme solution, je prends l'élément FDRL parce que ça a trop pourri, hein, je peux utiliser cette expression-là, ça a trop duré. Qu'est-ce que fait la communauté internationale? Si les Congolais sont incapables de pouvoir déloger l'FDRL, ceux qui en 94 n'avaient que 18 ans, aujourd'hui ils en ont combien? ils sont intégrés dans FDLR. Avant, on les appelait tout simplement Interam, sans organisation et tout. Que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Et du côté des Congolais, il se pose un problème réel de la défense de notre pays. Nos frontières sont poreuses. Moi, je crains fort, même si on parle aujourd'hui d'une armée républicaine qu'on est en train de d'organiser, ce ne sont pas les étrangers qui vont pouvoir créer une armée républicaine au Congo. Oui. Nous avons les filles et les fils de ces pays qui, avec les fonds de la République, ont eu de bonnes formations comme brevetés des états-majors militaires, des experts qui peuvent créer comme ça une armée afin de pouvoir protéger les frontières de la République.
Donc, on vous comprend, il y a d'un côté la communauté internationale.
De l'autre côté, les Congolais.
Oui, pour savoir bien défendre le pays. Madame Vicky Katoumou, juste peut-être un petit mot par rapport à ce que Eve Bazaïba venait de dire.
Pardon?
Vous êtes de l'avis d'Eve Bazaïba, qui a la communauté internationale, qui a beaucoup à faire, surtout sur la question FDLR, et puis il y a l'État congolais qui doit tout faire pour défendre le pays.
Oui, tout à fait. Les responsabilités sont partagées. Mmh. La communauté internationale a beaucoup à faire. Elle a évoqué le facteur Interam. Ces Interam, ces hommes à munitions qui sont entrés en 94 dans notre territoire, ils sont passés au vu et au su de la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui a demandé à ce que le Congo puisse disponibiliser de cet espace d'accueil pour ces gens là-bas. Mmh. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait pour le retour de ces gens? On les a gardés au Congo. Donc aujourd'hui, on a des hommes, des femmes, des enfants en prolifération sur le territoire congolais qu'on ne sait plus identifier. Mmh. C'est vraiment un grand problème.
Voilà.
En ce qui concerne la responsabilité du gouvernement congolais, bien sûr que notre gouvernement, ça je l'ai toujours dit, que le gouvernement doit fournir beaucoup plus d'efforts pour pacifier et sécuriser les personnes et leurs biens. Après Sam Sisi, le mémorandum sur l'armée parlait de la restructuration de l'armée. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Parce que nous-mêmes, d'abord, avant d'inviter ou avant d'approcher la communauté internationale, nous devons être à même de nous défendre lorsque nous sommes attaqués. Donc c'est vraiment un problème, c'est vraiment une faiblesse que nous remarquons du côté de notre gouvernement. Nous devons le dire, il faudrait que nous soyons honnêtes de le dire.
Merci,
il ne faudrait pas chaque fois que nous fassions appel à la communauté internationale, alors que nous avons une armée, que c'est notre armée, pourquoi on ne la cadre pas.
Voilà, on va poursuivre cette émission. Je rappelle à ceux qui nous suivent qu'il s'agit bien d'un spécial dialogue entre Congolais sur la journée internationale de la paix. Quel est le sens de cette journée? Quel défi pour la paix en RDC? Nous recevons dans ce studio Oupio Kakurawa-Paul, député national PPRD, élu de Litori, Clément Kankoubou-Kassa, député national élu de Dibaya au Kassai Occidental, député indépendant, proche de l'Union pour la Nation, Eve Bazaïba, sénatrice MLC, et Vicky Katoumou, député national AMP. À propos de la situation dans le Nord Kivu, Alain Dos, numéro 1 de la MONUC, exprime son espoir quant au désengagement des groupes. Son espoir, il le fonde sur le geste qu'il a du CNDP de Laurent Kunda. On écoute Alain Dos au micro de Ben Kabamba. Il répondait, Alain Dos, aux questions des auditeurs et internautes de Radio Kapi.
Et je pense, tout en allant de l'avant avec le plan de désengagement, n'empêche qu'il y a des discussions sur d'autres fronts. Mais l'essentiel, que sauf qu'on arrive à arrêter le combat et aider les gens à retrouver la paix, tout le reste ne va pas suivre. Et je pense dans l'entrée du CNDP et tout le monde, de poursuivre et de mettre en application le plus rapidement possible ce plan de désengagement, avec des garanties, parce que nous sommes portants, nous sommes les garants de ce qui a été décidé à Goma. Les Nations Unies, les États-Unis, l'Union Européenne, l'Union Africaine et le Comité des Grands Lacs.
Au pire, vous avez suivi cet appel, encore une fois, cette fois-ci de Alain Dos. Ça concerne le plan de désengagement. Mais on sait, on connaît les conditions posées par le CNDP de Laurent Kunda, des négociations directes avec le gouvernement.
Non, je pense qu'il faut être clair et précis. Le plan de désengagement découle du programme Amani, donc des actes d'engagement de Goma, à laquelle... auquel, n'est-ce pas, le CNDP de Kunda est parti. Et donc, comme l'exprime très bien Alain Dos, il faudrait espérer fermement et en appeler encore une fois à la main tendue, n'est-ce pas, en direction du Kunda pour que celui-ci accepte, n'est-ce pas, cette chance. Je crois que c'est quand même une dernière chance. Le président Kabila l'a bien dit, que la paix reviendra au Kivu par tous les moyens. J'y crois fermement. La communauté internationale également, et notamment la MONUC, par son mandat de maintien de la paix. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, notamment lorsqu'on parle des opérations de maintien de la paix, et si je rebondis sur l'élément donné par mon collègue Kangou, c'est l'élément externe de la crise. C'est que donc si la paix et la sécurité internationale peuvent être menacées parce qu'il y a un voisin qui, pour les veuille ou pas, ça paraît clairement que, qu'il y a un appui, n'est-ce pas, à un groupe armé qui perturbe la paix.
Vous parlez du Rwanda.
Bien entendu.
Mais le Rwanda qui est nié, ça, on a suivi le président Kagame.
Il est tout à fait évident que pour des raisons diplomatiques, personne ne reconnaîtrait, alors que les faits, les gestes, les comportements, les attitudes, les déclarations démontrent, n'est-ce pas, qu'il y a un appui. Parce qu'autrement, comment un groupe armé qui n'a pas de base arrière pourrait résister?
Mais pourquoi on n'arrive pas à l'emporter sur ce groupe armé et l'envoyer pratiquement au-delà de les frontières? C'est pas une faiblesse du côté congolais?
Non, c'est pas une faiblesse. Nous avons tous évoqué la complexité de la situation, c'est-à-dire les appuis dont bénéficieraient les groupes, non seulement par rapport à un État, un système, à des multinationales, donc qui permettent qu'ils utilisent armes et munitions, qu'on fasse une armée qui, qu'on les veuille ou pas, est en train de se restituer, qui a des moyens, qui fait ses preuves. Et donc, il y en a un problème.
Oui. Mais au nom de la paix, parce que c'est quand même la journée internationale de la paix, qu'est-ce que ça coûterait, par exemple, au niveau de l'AMP ou du PCRD, votre camp politique, d'encourager ces négociations directes entre le gouvernement et Laurent Kunda? Qu'est-ce que ça coûterait?
Écoutez, c'était une diversion. Il y a eu toute une série de discussions au mois de janvier à Goma, un cadre qui est créé, qui favorise les négociations, où Kunda peut, n'est-ce pas, exprimer ses points de vue. Pourquoi ne veut-il pas que ce cadre-là serve justement, n'est-ce pas, de moyen de dialogue, et qui voudrait, à quel titre, je ne sais pas, pouvoir, n'est-ce pas, traiter avec le gouvernement, alors qu'il peut être non seulement tendu, qu'il peut présenter, je dirais, son point de vue. Le plan d'engagement, de désengagement dont il est question aujourd'hui, a été présenté, il a accepté. Et que donc, s'il a des griefs, s'il a des propositions à faire, c'est dans le cadre de ce plan de désengagement. Et voilà donc l'espace du dialogue qui est tout à fait offert. Si Kunda a un statut particulier, selon lui, il n'a qu'à le faire prévaloir dans le cadre de ce plan d'engagement, dans le cadre du programme Amani, qui a quand même recueilli non seulement l'accord du gouvernement congolais, mais de la communauté internationale.
Clément Kanko Bokassa, vous êtes pour ou contre les négociations directes entre le gouvernement et le CNDP au nom de la paix, et la journée internationale de la paix?
Je pense que ce ne doit pas être pour ou contre les négociations directes. Je suis pour toute négociation.
Ouais. Mais pour le cas précis,
je vais y arriver. Mmh. Mais pour le cas précis, on vous a dit que le problème Kunda est un problème complexe. Comment voulez-vous gérer le conflit à l'Est? Gérer le problème Kunda alors qu'au Rwanda, il y a encore des problèmes. Il y a un problème entre Tutsi et Hutu. Au Rwanda, c'est un problème réel. En fait, la crise à l'Est est tout simplement l'exportation du conflit au Congo.
Oui, mais comment voulez-vous
parler avec... Vous parlez avec... C'est bien, on prend pour acquis. Parlons avec Kunda directement.
Oui.
C'est une bonne chose. Oui. Mais comment vous allez gérer la situation des Hutus? Je crois que la sénatrice vous a dit qu'il y a un problème de FDLR, Interahamwe et compagnie. Comment vous gérez ce problème? Parce que tant que ces gens seront au Congo, Kagame aura un prétexte pour venir au Congo. Mais même s'il dit qu'il ne le fait pas, tant mieux. Il dit qu'il ne le fait pas. Mais bon, mais quand Kunda, suivant les recommandations de Kunda, nous voyons que Kunda parle à un moment des Interahamwe qui menacent la paix à l'Est. Et Kunda est relayé par d'autres Congolais
ici à l'interne. Donc, vouloir régler le problème Kunda, tout simplement en disant que nous allons parler avec Kunda, et vous savez, la population à l'Est est fatiguée de tout ce cinéma, tout ce show médiatique que nous sommes en train d'offrir. Excusez-moi, passez-moi les termes. Tout ce que nous disons, des engagements, nous parlons. Mais ça arrive à quoi, puisqu'au finish, nous allons revenir à la case de départ. Nous sommes partis de Saint-City. On pensait avoir réglé le problème de l'Est. Oh, le lendemain, c'est Moutemboussi. Le lendemain, c'est Kunda qui apparaît. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'après demain, il y aura un quatrième ou un troisième Kunda?
Ah, vous entendez parler, il n'y a pas de solution.
Non, alors, j'ai bien dit que c'est un problème complexe. Le gouvernement congolais devrait prendre ses responsabilités pour parler avec la communauté internationale afin qu'on trouve une solution avec le Rwanda voisin. Parce que le Rwanda, d'une manière ou d'une autre, le Rwanda, Paul Kagame vous a dit qu'il soutient clairement, qu'il est sympathique pour Kunda, il soutient Kunda. Mon collègue vient vous dire
clairement, et ça c'est vraiment c'est vous qui l'avez dit.
Mais quand il justifie le combat de Kunda, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cautionne le combat de Kunda.
On a resté dans les mots, hein, c'est pour
pas ne jouons pas le jeu de mots. Ouais. Nous parlons de la vie de milliers et des milliers de citoyens, des femmes, des hommes, des enfants qui sont obligés de quitter, de fuir leur maison, des femmes qui sont violées, tout simplement parce que nous voulons gérer les problèmes de façon superficielle.
Voilà, donc pour vous, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et la communauté internationale.
Je dis bien « et », parce que je vous ai dit que le premier complexe est à l'interne et à l'externe. À l'externe, il faut parler avec la communauté internationale, il faut impliquer la communauté internationale pour gérer les problèmes
qui est déjà impliqué.
Mais je crois que nous sommes en train de jouer à un jeu de ping-pong. Vous avez vu ce qui s'est passé au Kosovo, ce qui se passe en Irak. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas attendu que quelqu'un leur dise quoi que ce soit pour intervenir. Mais comment on peut laisser toute une population mourir tout simplement parce qu'on pourrait justifier qu'il y ait un tramway, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela? Non, je ne veux pas prendre parti pour l'un ou l'autre, mais tout simplement, je prends parti pour le Congolais qui souffre tous les jours. Nous, ici à Kinshasa, on est solidaires avec ceux qui sont à l'Est, tout simplement en disant, le gouvernement doit prendre ses responsabilités avec son voisin, le Rwanda, et à l'interne, il y a des problèmes qu'il faut gérer et qu'il faut résoudre parce que, vraisemblablement, il y a quelques complicités aussi.
Voilà. Madame Vicky, quatre mois, je vous rappeler encore que lorsque vous parlez encore avec peut-être des gens qui sont autour de vous, ça passe à l'antenne. Je vous redonne encore la parole cette fois-ci. Vous avez déjà parlé, vous avez appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités. Il s'agit de quelles responsabilités que le gouvernement congolais n'a pas encore prises jusque-là, selon vous?
Oui, le gouvernement a la responsabilité de sécuriser, de pacifier le territoire congolais. C'est le rôle.
Est-ce qu'il ne le fait pas?
Le gouvernement a dépacifié et de sécuriser le peuple congolais.
Est-ce qu'il ne le fait pas?
Mais on ne le sent pas à l'Est. Il faut qu'on se le dise. On ne le sent pas. Avant de faire appel à la MONUC ou à d'autres forces, il faudrait d'abord que notre gouvernement soit à même de nous sécuriser, soit à même de pacifier le territoire congolais. C'est un objectif que le gouvernement doit atteindre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le phénomène Kunda à l'Est? C'est parce qu'on n'est pas en mesure de le déloger. Pourquoi continuer le pourparler avec quelqu'un qui a déserté les rangs qui a déserté l'armée congolaise? Pourquoi continuer à négocier avec lui? Qu'est-ce qu'il cherche le Kunda? Est-ce que Kunda il est plus congolais que tout le monde? C'est pour dire qu'on arrive là-bas, il y a que Kunda qui est plus fort que tout le monde. Pour qu'aujourd'hui la population continue à trimer. Pourquoi il y a eu le dialogue entre Congolais? Il y a eu des problèmes entre Congolais qui ont été résolus.
Mais c'est pourquoi Kunda?
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette résurgence à l'Équateur? C'est pour vous dire qu'à l'Équateur, il n'y avait pas une rébellion.
Madame Bikini, c'est pourquoi Kunda exige des négociations directes, lui et son groupe, avec le gouvernement? Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Je ne suis pas d'accord. Négocier avec Kunda, c'est une faiblesse.
Et au nom de
le gouvernement doit tout faire, mais doit tout mettre en œuvre pour les déloger. Déloger, c'est récalcitrant.
Mais au nom de la paix, on ne peut pas le faire.
Oui, mais au nom de la paix, le peuple congolais s'est réuni au nom de la paix. Les dialogues inter-congolais, je résiens là-dessus. J'étais à Sand City. On a débattu de tous les problèmes. Mais les uns et les autres ont occupé des postes importants. Pourquoi est-ce qu'à l'Équateur, il n'y a pas la guerre? C'est pour vous dire qu'à l'Équateur, il n'y avait pas une rébellion.
Et si les négociations directes, c'est le prix à payer pour qu'il y ait la paix, pourquoi ne pas le rencontrer?
Mais les négociations directes, c'est le prix à payer. Nous avons déjà négocié. Pourquoi il y a eu le programme à Manu? pourquoi Amani est mise en place.
Il estime que le programme Amani est pareil.
Les autres ont dit, mais eux veulent qu'il négocie avec le gouvernement, qu'il se retrouve dans le gouvernement. Mais c'est un gouvernement issu des élections. S'ils veulent se retrouver dans ce gouvernement, qu'ils attendent 2011.
Voilà, on va terminer sur ce chapitre-là rapidement avec Mme Eve Bazaïma pour boucler ce dossier de négociation directe avec Nkunda ou non.
Moi, je voudrais dire que, vous savez, là, une des voies de solution pour cette question, on ne pouvait même pas, pour moi, multiplier les actes, les négociations et tout, parce que de manière aussi globale que possible, Mme Vicky Katumwa, l'honorable, vient de dire qu'on avait trouvé une partie des solutions pour l'interne au sorti des négociations. Et pour la région des Grands Lacs, il y a eu tout un processus de la conférence pour la paix, la sécurité et le développement dans les Grands Lacs.
Mais la réalité
tout autre. Mais la réalité est tout autre parce que justement nous n'avons pas appliqué les résolutions. Il y a eu la déclaration de Nairobi, il y a eu les pactes de paix. Dans ces pactes de paix et de sécurité, l'espèce de ce qu'on a appelé comme plan Marshall pour le Grand Lac, notamment spécialement le Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ainsi que certainement d'autres pays qui sont intégrés dans ces processus. Dans le paquet des Grands Lacs.
Oui.
Et pour la paix et la sécurité spécialement, il s'est agi de départ forcé des intérêts en moi. Et ça pour ôter le prétexte à quiconque viendrait dire quoi que ce soit à ce sujet, parce qu'il s'agit des Rwandais, des Hutus Rwandais, qui, une fois la République démocratique du Congo, ça pose un problème de cohabitation avec les Tutsis congolais.
Excusez-moi peut-être de vous couper là-dessus, c'est juste pour une précision. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la situation actuelle avec le plan de désengagement? Ce que vous proposez, c'est qu'on arrête d'abord avec le plan de désengagement, qu'on s'attaque d'abord au FDLR. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
Dans le plan de désengagement, il y a aussi la démarche de la question, la résolution de la question pour l'FDLR.
Mmh.
Je sais qu'on n'avait pas accepté leur présence dans la rencontre de Goma en disant qu'ils n'étaient pas des Congolais.
Mmh.
Alors, ça, c'est un élément moteur. Alors, ça, c'est mettre de côté le fond même du problème. Aujourd'hui, Kounda Batoire dit, moi, Congolais, Kounda Batoire, il est Congolais.
Kounda
Miigo, Congolais, Tutsi Congolais, il faut le dire, il a des problèmes avec les Hutus Rwandais qui sont là-bas, parce que lui, il estime qu'il est de la ramification des Tutsi qui se trouveraient aussi dans cette région des Grands Lacs, et la cohabitation pose problème.
Ça, c'est votre lecture.
C'est ma lecture de la chose. Mmh. C'est la lecture qui a été faite dans la conférence, dans le processus des Grands Lacs. Il y a eu l'étape, la partie de la paix et sécurité, toute une commission qui a travaillé là-dessous pour ôter ce genre de prétexte à quiconque dirait, porterait un avis par rapport à la situation des problèmes que posent les intérêts à moi. Et deuxièmement, c'était la gestion mixte de frontières pour qu'il n'y ait plus jamais des incursions des rebelles rwandais au Rwanda, qu'habiterait le Congo entre guillemets, et qu'il n'y ait jamais des incursions ou des ramifications d'une rébellion au Congo et qui proviendrait, qui serait soutenue au Rwanda.
Donc, vous voulez dire que
on n'a jamais mis en application et puis on a dépensé gratuitement l'argent pour une conférence qui a coûté plus de 2 millions de dollars pendant que les enseignants ne sont pas payés, pendant que les hôpitaux ne sont pas réhabilités, pendant que nous n'avons pas encore les routes. Nous attendons la mise en application de ces chantiers parce que la paix, ce n'est pas la paix seulement des cessations des hostilités, mais la paix aussi, la paix sociale compte beaucoup. Il y a l'argent qui est dilapidé à l'Est pour des questions
qu'on
ne semble pas le faire. Et bon, je crois qu'on va en parler.
On va parler tout de suite d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, juste le temps de rappeler à ceux qui nous suivent qu'il s'agit bien de spécial dialogue entre Congolais sur la journée internationale de paix célébrée ce 21 septembre 2008. Elle est célébrée tous les 21 septembre. Quel défi pour la paix en République démocratique du Congo sans transition? Nous passons à la deuxième partie de cette émission. Et à propos des défis de paix en République démocratique du Congo, essentiellement au Nord Kivu, un député provincial de cette province dit d'abord déçu par l'évolution de la situation dans sa province et par rapport au reste du pays qui, selon lui, est pacifié. Mwindo Nzangi Butondo croit qu'avec une telle situation, les défis de paix en RDC sont énormes. On l'écoute au téléphone de Guy Maté.
à la célébration de la journée de la paix, nous sommes touchés par ce qui se passe dans notre province. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, toute la population de Routine, toute la population de Massissi est à déplacement. Nous allons atteindre des records, en tout cas, les plus oubliables du monde, puisqu'on tend vers 2 millions de déplacés indiens dans la province de Nord-Kivu. Pour vous dire que le défi est encore là. Bien sûr, nous disons que les responsabilités sont partagées. Au niveau du gouvernement, le Sankofa est le fort pour vouloir professionnaliser notre armée, puisqu'il est quand même aberrant que malgré les rapports qui sont envoyés, les militaires ne sont pas encore capables de gagner une seule bataille. Et au deuxième niveau, nous ne sentons pas aussi, et c'est un engagement ferme de la part de la Monique pour pouvoir éradiquer cette situation de guerre. Alors que nous, au niveau de la population, nous voulons souhaiter que la Monique, face à des personnes qui violent les accords, qui violent les actes d'engagement, la Monique puisse utiliser la force pour éradiquer ces groupes armés.
Voilà, là c'était le député provincial, un élu de Loubero. Nous allons aussi voir un peu ce que disent les Congolais, puisque nous avons, il est Congolais aussi, hein, on a promené le micro notamment à Matadi, à Kinshasa et à Kikwit, pour entendre ce qu'ils pensent, eux, des défis de paix en RDC.
La paix, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour nous, les Congolais, étant donné que nous avons connu des moments très difficiles où des gens meurent, mais ce que ça signifie pour moi, c'est la prise de conscience des fils de ce pays qui prennent les armes pour tuer leurs frères, parents, leurs sœurs, et pourtant, on pouvait privilégier la voie du dialogue. La journée internationale de la paix, oui, mais quand vous êtes à Birere, par exemple, quand vous êtes à Dungu, quand vous êtes à Bounia, vous voyez que c'est là qu'ils ont besoin de la paix. La journée internationale de la paix, c'est une manifestation de la volonté à vouloir arrêter avec la guerre.
C'est chef des travaux Kusukwasa de l'ISP Kikwit. Pour moi, la paix, je sais que dans le contexte de notre pays, lorsqu'on parle de la paix, tout le monde se focalise sur la guerre. Mais moi, je me dis que la paix, elle est multidimensionnelle. Et je crois que la meilleure paix, c'est celle qui considère la dimension sociale. Par exemple, un peuple qui ne mange pas suffisamment, un peuple qui est mal payé, un peuple qui ne sait pas se vêtir, un peuple qui se soucie des besoins primaires, celui-là, il n'est pas en paix.
Pour moi, la paix, Zakimia, et puis, et le retour, c'est Naga, Namboka, Congo, Kimia et Zalana, tous les coins, y a étendu à RDC. C'est ça la paix. Et là, moi, dans mon cas, à l'ongue, dans mon cas, oyo, à qui, dans mon cas, on était au l'ongue, dans le Lubumbashi, au Kenya, Équateur, au Kuta Kimia, bande de gonaope, bayamba, au Kuta, et là-bas, dans mon cas. Et là, au Kenya, elle, Moussoukouna, au Kepo Kuta, bande de Kobaza, au Kufa, ça, ce n'est pas la paix. Pour la journée internationale, la paix, nous avons lancé seulement que l'Union européenne et Monique Kobaza, qui représentait vraiment paix, dans la RDC, qui a vraiment paix, dans l'Engue Zali, dans le Bambou, comme si tu n'avais pas changé.
Voilà, donc on comprend que il n'y a pas de paix sans paix. Donc la paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, mais c'est aussi un aspect social. Vous êtes de cet avis, Opio? Je vois secouer la tête.
Oui, tout à fait. Évidemment, après la guerre, il faut une paix durable. Il faut une paix multidimensionnelle, il faut le développement économique et social, ça c'est évident, mais il faut d'abord créer les conditions pour qu'il n'y ait plus de conflits armés. Mm-hmm. Ça c'est évident.
Vous pensez que la guerre, finalement, elle freine tout le processus de donner la paix aux Congolais dans tous les différents aspects?
Il y en a fait à partir du moment où, lorsqu'il y a la guerre, le gouvernement est obligé de mobiliser l'essentiel des moyens pour appuyer l'armée afin que la guerre prenne fin et que dans les zones où il y a la guerre, n'est-ce pas, on se livre non seulement au pillage mais à l'exploitation des ressources qui auraient pu permettre à l'État d'avoir les moyens d'intervenir dans ce secteur, notamment les secteurs sociaux, le paiement de fonctionnaires, etc. Donc il est une priorité absolument de mettre fin à la guerre et pour que le gouvernement ne soit pas détourné des autres objectifs économiques et sociaux. Il est donc un impératif pour moi, aujourd'hui, que la situation au Nord Kivu, mais aussi comme un auteur l'a signalé à Dungu de la province orientale, où la LRA, la rébellion soudanaise, sème désolation. Il faut effectivement que dessous tous ces points de tension ne soient plus être éteints afin que nous puissions nous occuper, nous tous, des attentes les plus profondes de nos populations.
Clément Kankou, donc, vous êtes de cet avis que, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de la guerre que les autres problèmes, tels que la paix des enseignants, des médecins, par exemple, ça pose problème?
on ne peut pas dire que c'est à cause de ce qui se passe à l'Est qu'on ne sait pas payer les enseignants à Kinshasa. Ça serait un peu simplifier la chose.
C'est vrai que la paix
est indispensable pour le développement d'un pays.
Oui.
C'est, en fait. C'est vrai que bon, la solidarité par rapport à ce qui se passe là-bas, les gens ne peuvent pas travailler ici comme si de rien n'était. C'est vrai ce que le collègue a dit en parlant de revenus. C'est une bonne partie des recettes de l'État qui partent tout simplement parce qu'il y a des gens qui plient. Mais je crois que la problématique des enseignants, ça, c'est un déficit au niveau du gouvernement. Ça, il ne faut pas commencer à trouver un prétexte là-dessus. Nous avons un gouvernement tout à fait, permettez-moi le terme, plus ou moins irresponsable par rapport à ce qui se passe. On ne trouve pas de solution durable aux problèmes que pose la population au jour le jour. Et en parlant du gouvernement, c'est vrai, mais vous comprenez que depuis qu'il y a eu des problèmes à l'Est, le premier ministre, chef du gouvernement, ne s'est même pas déplacé une seule minute pour aller voir ce qui se passe à l'Est.
Le président est parti.
Je parle du premier ministre, chef du gouvernement. Le président est là. Le président ne doit pas s'occuper de tout. Si le président doit s'occuper de tout, qu'il n'y ait pas un premier ministre, qu'on voit le président au four et au moulin. C'est tout simplement pour dire que même si le président donne l'impulsion, si le reste, le gouvernement ne suit pas tel que nous le voyons, comment, je parle d'un exemple. Le président Kamir, qu'on apprécie les efforts, il est à l'Est. Il est tempéré quand il parle. Mais quand vous entendez les membres du gouvernement parler de la crise à l'Est, ce n'est pas de nature à installer un climat de confiance. Quand vous entendez les ministres concernés, je ne vais pas citer les noms, mais les ministres concernés dans cette crise, parler de cette affaire, même à promettre un compte à déterminer. Comme Savini, je ne sais pas, je crois qu'il y a un petit problème entre le gouvernement.
Le discours doit être.
Je ne parle pas de modérer les discours,
ouais.
Mais je dis qu'il y a une certaine confusion au niveau du gouvernement. On ne sait pas ce qu'on veut. Ouais. Un coup, on veut négocier, ouais. Un autre, on menace ou on veut faire la guerre. Et c'est la population qui ne comprend plus rien.
Voilà, nous sommes toujours sur les défis, là, madame, on va prendre Vicky Katoumoa, c'est sur les défis, on a suivi dans la population qui s'est exprimée que la paix, c'est vrai, il y a la guerre à l'Est, mais il y a plus que ça aussi, Vicky Katoumoa.
Tout à fait, je suis d'avis que la paix est un facteur multidimensionnel. Donc il ne faudrait pas seulement qu'on parle de la paix parce qu'il y a des armes qui crépitent à l'Est. Mmh. Il y a aussi la paix sociale qu'il faut rétablir, je suis d'avis. Je suis d'avis, comme l'a dit mon collègue Oupio, qu'il faudrait qu'il y ait des efforts qui doivent être faits de ce côté-là pour essayer d'équilibrer et surtout de créer la classe moyenne. Je l'ai toujours dit sur votre plateau qu'on doit recréer la classe moyenne qui n'existe plus. Et lorsque le gouvernement doit générer les moyens pour arriver à payer tout le monde, et comme vous le savez, c'est la partie est qui a beaucoup de minerais. Et lorsque vous constatez que là où il y a des minerais que le gouvernement doit exploiter, c'est toutes ces parties sont occupées par les différentes factions rebelles qui sont en train d'amasser de l'argent pour leur propre compte, cela pose problème. Et donc cela ne doit pas non plus être une excuse pour notre gouvernement de ne pas fournir des efforts considérables, de créer des conditions nécessaires pour arriver à rétablir la paix sociale.
Voilà.
Vous avez suivi l'un des intervenants qui a parlé de la paix, le ventre est affamé, il faudrait que les gens aient de l'argent, tout ça. Il faudrait qu'on arrive aussi à mettre notre population dans des conditions un peu plus bonnes pour que tout le monde puisse avoir s'il part travailler, qu'il trouve quand même quelque chose à mettre sous la dent.
Ouais.
Ça, c'est un problème. Donc, notre gouvernement doit définir des objectifs, il doit définir des priorités. Bien sûr qu'il y a la paix qu'on doit rétablir à l'est du pays.
Oui.
Bien sûr aussi, il faudrait qu'on arrive à mettre tout le monde dans de bonnes conditions.
Malheureusement, on n'a personne du gouvernement, on n'a que des parlementaires et on vous connaît, hein, vous tirez souvent sur le gouvernement, Madame Bazaïba.
Nous ne tirons pas souvent sur le gouvernement, mais nous sommes en train de jouer notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Je voudrais ici.
Ça fait un discours qu'on connaît des parlementaires.
Tout à fait.
Même si en pratique.
C'est notre rôle. Pour permettre au gouvernement de réagir les tirs au service de la nation. Je voudrais ici dire vraiment que je suis fier des Congolais par rapport à la définition qui sont données pour la paix. J'ai donné ce point de vue-là avant même que je puisse écouter. Et surtout la solidarité que les Congolais ont exprimée. Tout en étant à Matadi, on s'est dit il n'y a pas de paix parce qu'à Rutshuru, hein, il y a des problèmes. Ça, c'est très, très important et c'est ce qui nous fait vivre jusqu'à ces jours. Mais je voudrais quand même relever aussi un élément du député provincial de Nord-Kivu. Lui, il a dit qu'il était déçu. Et surtout, il a relevé la question du comportement de nos militaires. Ça, c'est très important. Nous savons que nos militaires ont des sérieux problèmes. Quand on parle de la paix sociale, il faut parfois aussi voir certains secteurs. Ceux qui sont appelés à nous sécuriser, à la défense de la nation, il y a la police nationale. Il faut voir l'état dans lequel se trouve la police aujourd'hui, socialement. Il y a le militaire aussi. Il faut voir l'état dans lequel se trouve le militaire aujourd'hui. Ceux qui sont allés au front, parfois, ils sont plus ou moins privilégiés. Mais au lieu d'avoir la conscience pour défendre la nation, ils sont les premiers à abandonner les armes alors qu'ils ont juré de pouvoir défendre. Les privilèges qu'ils ont, ce qu'ils ont, ils sont au fond. Je sais qu'il y a des défaillances très souvent du gouvernement en termes de logistique, mais ce ne sont pas les privilèges qu'on peut parler des militaires ici. Vous n'avez qu'à voir, de façon générale, vous n'avez qu'à voir les camps militaires, les militaires qui cohabitent avec nous dans la cité. Du coup, c'est la population civile qui paye les frais et ça crée encore de l'insécurité et nous manquons la paix totale, même là où la guerre n'est pas aussi déclarée comme à l'est du pays. C'est un élément que je voudrais aussi, un message que je lancerai aussi à nos forces armées, au service de sécurité des renseignements, à la police nationale, qui soient des éléments de la paix. La police, c'est pour la sécurité des personnes et des biens. Les services des renseignements, ce n'est pas pour les BI contre les individus, les Congolais, mais plutôt pour la sécurité du pays et aussi les forces armées, c'est pour la défense, qu'ils aient aussi l'attitude de paix dans leur travail.
Merci beaucoup. Je rappelle que nous parlons de la journée internationale de la paix. Et c'est bien un spécial dialogue entre Congolais sur cette journée. Nous allons, puisqu'il nous reste que quelques 4 minutes pour terminer cette émission, on va faire le tour de table pour que chacun puisse émettre un message de paix. On commence par notre seul invité au téléphone, Mme Vicky Katoumou. En une minute, votre message de paix.
Oui, bon, je lance mon message de paix à l'endroit de tous les Congolais qui sont épris de paix, que ce pays nous appartient et nous avons intérêt de servir loyalement ce pays dans un espace pacifié. Et donc, à tous ceux-là qui croient que par les moyens de la force, par les moyens de physique qu'ils détiennent, qu'ils pourront imposer au peuple congolais les affres que ce peuple de l'Est a connues, je crois qu'ils sont en train de se tromper. Donc, le moment de faire la paix est arrivé. Le peuple congolais n'a pas besoin de toutes ces guerres parce qu'il ne trouve pas son intérêt là-dedans. Et donc, il est grand temps que tout le monde mette d'abord l'intérêt général de tous les Congolais en premier plan avant de considérer ses propres intérêts.
Merci beaucoup. Madame Bazaïba, une minute pour un message de paix.
Une minute pour le message de paix. Je voudrais m'adresser spécialement aux dirigeants. Moi-même, j'ai fait partie de ces compartiments, mais ceux qui sont dans l'exécutif pour dire la population a besoin d'être sécurisée. Et la paix, si c'est un comportement, la paix aussi c'est un état d'esprit. Nous ne disons pas que la paix soit une position de faiblesse, mais qu'ils sachent que la paix c'est la condition spéciale, la condition sine qua non pour le développement dans notre pays. Impliquons-nous tous pour la paix.
Moi, je vais dans le sens de Noral Bazaï, en demandant tout simplement au gouvernement de prendre ses responsabilités. Quoi dire à une population qui n'aspire qu'à la paix? Nous ne pouvons que dire à la population de tenir bon. Mais que le gouvernement fasse son travail parce qu'ils ont été, on a été élus et ils sont là pour rendre cette paix qu'ils ont promis à la population pendant les élections.
On va terminer par vous, Oupio Kakoua.
Oui, je voudrais à la suite de mes collègues inviter tous ceux qui détiennent encore les armes de savoir que le temps, n'est-ce pas, de la guerre est révolu et que tous les problèmes, s'il y en a encore, doivent être résolus par des moyens non violents. La conflictualité n'est plus la solution au problème. Il faut favoriser les dialogues, les négociations. La culture de la paix doit être aujourd'hui, n'est-ce pas, un programme permanent et que le gouvernement devrait, dans le programme scolaire, à partir de maintenant, prévoir, n'est-ce pas, les enseignements, non seulement des cultures de la paix, mais aussi une éducation permanente aux droits de l'homme. il me semble que la paix et les droits de l'homme vont de pair et que ça doit être un engagement permanent et continuel pour nous tous. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci à tous les invités, Oupio, Vicky Katoumoua, Eva Zaïba et Clément Kankoubou-Kassa. C'est la fin de cette émission spéciale Dialogue entre Congolais sur la Journée internationale de la paix. Kelly Koutré était à la réalisation, Sylvain Baouguéré à la technique, avec le concours de Guy Massé à la réalisation, je veux dire, Jean-Claude Toumba-Kamanga. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Thank you.